France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les couples français réticents à partager leurs biens. L'indépendance avant tout, même dans le mariage, voilà ce que nous disent les notaires. En ce jour de Saint-Valentin, explication à suivre. Une technique de guerre inédite, les mots du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ce matin à Grenoble, deux jours après une attaque à la grenade dans la ville. Nous sommes sur place. L'affaire des violences et agressions sexuelles dans l'établissement scolaire Notre-Dame de Bétarame, près de Pau. Bonjour Delphine Evenoux.
Bonjour.
Et de nouvelles plaintes déposées ces derniers jours.
Plus de 110 victimes qui se sont signalées. Les faits se déroulent sur plusieurs décennies, le dossier est titanesque, colossal, mais l'enquête avance.
Et Alain Esquer, le porte-parole des victimes qui s'est entretenu avec le Premier ministre François Bayrou hier, sera notre invité dans quelques minutes. Nous serons également à Munich où s'est ouverte ce matin la conférence sur la sécurité. Nous verrons que les Américains se montrent plus conciliants avec les Ukrainiens. Nous serons également en direct de Goma en République démocratique du Congo avec nos envoyés spéciaux sur place pour nous dire comment se passe l'occupation de la ville par les rebelles du M23. Les projets de stockage de CO2 en France. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
On a depuis ce matin une carte.
Oui, cette carte nous donne l'inventaire du potentiel de stockage souterrain de CO2 en France, en Aquitaine, sous le bassin parisien, dans le sud-est de la France, ou encore en mer, dans le golfe du Lion.
Vos explications dans quelques minutes. À partir de 13h30, pourquoi mentons-nous ? L'humoriste Morgane Cadignan se pose la question dans son nouveau spectacle intitulé La nuit je mens, elle est avec nous. Vous avez forcément des témoins. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. À Caen, le club de foot en pleine dégringolade. Son patron est un certain noir, Davy Assouli, longtemps la voix de l'OM sur les antennes de Radio France qui nous a quittés ces dernières heures. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, Victor Lemann, Nirvana et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Chacun y va de sa contribution en ce jour de Saint-Valentin. Celle-ci est plutôt inattendue, mais nous renseigne sur les relations entre les conjoints et les époux aujourd'hui. Quel revenu, quel patrimoine met-on en commun quand on se met en couple ? Ce sont les chambres de notaires qui nous livrent leur étude aujourd'hui. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Et la tendance est plutôt chacun pour soi.
Disons Jérôme que l'indépendance, même au sein du couple, gagne du terrain. Alors si 93% des époux estiment que la solidarité et la protection du conjoint survivant sont des valeurs essentielles du mariage, cela n'empêche pas de vouloir rester financièrement indépendant. Cela se voit sur des choses très matérielles, la voiture par exemple, ou l'entreprise, doivent rester des biens personnels pour plus de la moitié des personnes interrogées. L'épargne doit aussi être gérée de façon indépendante, c'est vrai pour 66% des moins de 35 ans. Le plus courant, c'est de recevoir chacun son salaire sur un compte personnel et d'avoir ensuite un compte commun pour les dépenses de la famille. Seule exception, le logement. Là, 62% des Français estiment qu'il doit appartenir aux époux à parts égales, quel que soit la somme mise au départ par chacun. C'est d'ailleurs ce qui correspond au régime de communauté réduite aux acquis, régime choisi par 63% des couples mariés, par rapport au régime de la séparation de biens, où là, par exemple, chacun est propriétaire du logement à hauteur de la somme versée lors de l'achat. Alors, parler d'argent est-il encore tabou en 2025 ? Ce qui est sûr, c'est que la moitié des Français s'estiment peu ou mal informés. Enfin, pour finir sur une note positive en ce jour de Saint-Valentin, 92% des personnes mariées croient en la pérennité de leur mariage, et ce alors qu'un mariage sur deux se termine par un divorce.
L'amour est aveugle, merci Agnès Soubiran. Le couple et le mensonge, on en reparlera avec notre invité, l'humoriste Morgane Cadignan, ce sera dans une demi-heure. Dans l'actualité de cette matinée, il y a donc la visite du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il est à Grenoble, visite programmée de longue date, mais qui intervient quelques heures après l'attaque d'un bar associatif de la ville, attaque à la grenade qui a fait 15 blessés, dont 6 graves, mercredi soir. Le patron de ce bar, déjà 11 fois condamné par la justice, a expliqué aux enquêteurs que c'est lui qui était visé. Et ce matin, Bruno Retailleau a rencontré sur place le maire de Grenoble, l'écologiste Éric Piolle, qui réclame depuis des mois des policiers supplémentaires. Sonia Gobry est sur place.
Après avoir constaté les dégâts importants, Bruno Retailleau dénonce une opération criminelle inédite avec des techniques de guerre. Alors les moyens de la police seront tout aussi important, 20 enquêteurs sont mobilisés.
Nous retrouverons bien entendu celui ou ceux qui ont fait cela et j'espère qu'il sera châtié à la juste mesure.
Il précise que l'établissement faisait partie d'une procédure de fermeture après des enquêtes liées au trafic de drogue.
Il n'y a jamais, jamais de hasard, c'est ce que je voulais dire et j'annoncerai cet après-midi la nouvelle doctrine de lutte contre le narcotrafic parce que là encore, il faut tout changer.
À ses côtés, le maire de Grenoble, Éric Piolle, reste silencieux. Il écoute ce discours de fermeté. Les deux hommes se sont entretenus ce matin en privé.
On a des désaccords et on a échangé sur nos désaccords. Voilà, on est par ailleurs des élus républicains. On n'a pas les mêmes convictions. Est-ce que ça vous étonne ? Non, ben voilà.
Bruno Retailleau lui a redit qu'il était pour une police municipale armée. Le maire de Grenoble s'y oppose toujours. Éric Piolle, lui a demandé combien de policiers étaient présents dans sa ville. Le ministre de l'Intérieur promet de les communiquer prochainement.
Reportage Sonia Gobry. C'est toujours le grand mystère autour de la mort d'un couple de Britanniques installés à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Ils ont été retrouvés morts à leur domicile la semaine dernière, lui pendue, elle avec une plaie au crâne, et c'est désormais le pôle criminel de Montpellier qui enquête, on l'a appris ce matin, affaire qui fait la une des médias outre-Manche depuis une semaine. Les médias italiens, eux, s'inquiètent ce matin pour l'état de santé du pape François, 88 ans. Il est hospitalisé depuis quelques heures. Bonjour Olivier Tosseri.
Bonjour.
Pour soigner une bronchite, j'ai envie de dire une fois de plus.
Exactement, il est très courant pour le pape d'avoir de souffrir de bronchite, sa santé qui ne cesse de décliner. La bronchite dont il souffre et pour laquelle il est maintenant hospitalisé, il avait contraint la semaine dernière à renoncer à lire sa catéchèse en public. François était apparu alors très fatigué, j'ai du mal à respirer, avait-il déclaré avant d'interrompre son discours. Le pape, dont une partie d'un poumon a été retirée lorsqu'il était jeune, avait déjà été hospitalisé pendant 3 nuits en 2023 à cause d'une bronchite. Ses troubles respiratoires font l'objet d'une vigilance particulière, mais âgé, comme vous l'avez dit, de 88 ans, sa santé reste de toute façon très fragile. En fauteuil roulant depuis 2022, il est confronté à plusieurs problèmes, notamment des douleurs au genou et à la hanche. Le pape est récemment tombé 2 fois dans sa résidence au Vatican, se blessant à la joue en décembre et au bras en janvier. Ces derniers mois, il a été contraint à plusieurs reprises de déléguer la lecture de ses discours, voire d'annuler sa participation à des événements pour des raisons de santé.
Merci Olivier Tosseri en direct de Rome. En Allemagne, on en sait plus sur les motivations de l'auteur présumé de l'attentat à la voiture Bélier à Munich qui a fait 36 blessés hier. Selon les autorités, cet attentat a une orientation islamiste et une motivation religieuse. Fin de citation. Il s'agit d'un jeune Afghan de 24 ans qui a été arrêté. Munich, où se déroule donc aujourd'hui la conférence annuelle sur la sécurité, avec un sujet au cœur des débats entre dirigeants du monde entier, l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est sur place, tout comme la présidente de la Commission européenne ou encore le vice-président américain. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Jérôme.
Envoyé spécial d'Inter à Munich. Mais les Russes, eux, ne sont pas là, Éric. Pourtant, Donald Trump a dit l'inverse. Hier soir, il a annoncé des entretiens avec des diplomates russes.
Oui, et l'annonce par Donald Trump hier soir comme quoi une délégation russe serait présente à Munich pour y rencontrer les Américains et les Ukrainiens avait surpris absolument tout le monde. Mais ce matin, la porte-parole de la diplomatie russe a confirmé qu'aucun représentant de la Fédération de Russie ne serait effectivement présent à Munich, où les débats risquent surtout de se transformer en confrontation ouverte entre Européens et Américains autour de l'Ukraine et de la Russie.
Alors, le vice-président américain J.D. Vance, qui était à Paris en début de semaine, lui, il est là, il est bien à Munich et il s'est montré ces dernières heures beaucoup plus rassurant pour l'Ukraine que ne l'avait été Donald Trump avant lui.
Oui, avant d'arriver à Munich, J.D. Vance a voulu, dans une interview donnée au Wall Street Journal, mettre les points sur les i concernant cette future négociation américano-russe. Rien ne doit être laissé en dehors de la table, y compris les pressions militaires sur la Russie, a-t-il confié au quotidien, et jusqu'à l'envoi de troupes américaines en Ukraine au cas où Moscou se révélerait négocier de mauvaise foi. Des déclarations qui corrigent celles du secrétaire à la défense, Pete Hegseth, lequel, en début de semaine, devant ses homologues de l'OTAN, avertissait que l'Ukraine ne devait pas espérer récupérer les territoires conquis par la Russie depuis 2014 et que le pays n'avait pas vocation à intégrer un jour l'Alliance Atlantique. Il reprenait là quasiment mot pour mot les revendications de la Russie. Donald Trump avait également appuyé dans le même sens, laissant penser que le plan de paix de l'administration Trump n'était rien d'autre qu'une paix faisant surtout la part belle à la Russie.
J.D. Vance qui a également ajouté ce matin, toujours de Munich, que l'Europe devrait bien sûr, c'est son expression, devrait devrait bien sûr être impliqué dans toute négociation sur la paix en Ukraine. Merci Éric Biegala, en direct de Munich avec les moyens techniques de Johanna Gabrick. Autre conflit qui lui est très peu couvert par la presse internationale, celui qui ensanglante l'est de la République démocratique du Congo autour de Goma. La ville congolaise est tombée fin janvier aux mains des rebelles congolais du M23, soutenus par le pays voisin, le Rwanda, sur fond de convoitise pour les ressources minières dans cette région. Et bien France Inter est l'un des rares médias présents sur place grâce à nos envoyés spéciaux Sandrine Malon et Omar Waman. Bonjour Omar.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes à Goma. Quelle est la situation dans la ville? Est-elle totalement contrôlée par les rebelles du M23?
Alors ici, à Goma, la vie a repris, mais très timidement. On peut voir des traces des combats, des impacts sur les murs, des affrontements qui ont été extrêmement violents, racontent les habitants. Certains commerces sont fermés, ceux qui ont rouvert baissent leurs rideaux avant la tombée de la nuit et le soir les rues sont vides, c'est impressionnant. Il règne ici un climat d'inquiétude, voire de peur, une peur dirigée contre les nouveaux maîtres de la ville, les rebelles du M23, que l'on voit patrouiller régulièrement à pied ou dans des convois militaires, des hommes souvent très jeunes qui traquent actuellement les soldats de l'armée congolaise qui n'ont pas réussi à fuir et qui se cachent dans la ville, ce qui explique les coups de feu que l'on entend notamment la nuit. Des rebelles du M23 équipés et soutenus, vous l'avez dit Jérôme, par le pays voisin et ennemi, le Rwanda, selon plusieurs témoins oculaires qui disent avoir vu des soldats de l'armée rwandaise, des forces spéciales lourdement armées, franchir la frontière et combattre en première ligne, suivis des rebelles, des soldats rwandais qui ont donc ouvert la voie au M23 et permis cette chute éclair de Goma avant de poursuivre leur avancée vers leur deuxième objectif, la ville de Bukavu, à 200 km au sud de Goma.
Sur le plan humanitaire, Omar, la ville de Goma où vous vous trouvez, abritait de nombreuses personnes déplacées. Que sont-elles devenues ?
Écoutez, la situation est catastrophique, Jérôme. On assiste depuis lundi au démantèlement des camps de déplacés autour de Goma. Près d'un million de civils chassés par la guerre, les combats, et qui avaient trouvé refuge dans ces camps de fortune, des déplacés qui dépendaient de l'assistance des ONG pour survivre. Eh bien, les rebelles du M23 leur ont donné 3 jours pour rentrer chez eux. Donc on assiste à un exode massif sous la contrainte des dizaines de milliers de civils, des femmes, des hommes, des enfants qui ont pris la route, le ventre vide, souvent à pied, sans aucune mesure d'accompagnement, des heures, voire des jours de marche avant d'atteindre les territoires de Massissi, d'où ils sont originaires, comme cet homme qui a rassemblé ses affaires avant de partir.
Moi, je vais à Kichanga, c'est 60 km d'ici. On ne donne pas de moyens de déplacement, donc nous marchons en pied, nous tous. C'est nous qui sommes en train de souffrir, il n'y a pas d'argent. Il y a même des maisons qui sont déjà détruites de là-bas. Ils sont en train de nous mentir que chez nous, il y a de la paix. Or, on ne sait pas aussi s'il y a la paix là-bas, chez nous.
Et cet homme a raison, hein, Jérôme. De nombreuses maisons ont été détruites, pillées ou incendiées. On a pu le constater, notamment dans la région de Saké, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, une zone immense où de nombreux groupes armés sont présents et profitent de l'absence de l'État congolais pour faire régner la terreur. Les femmes y sont violées et les hommes enrôlés de force.
Merci Omar Waman et Sandrine Malon pour les moyens techniques, tous deux envoyés spéciaux à Goma pour Inter dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et le sujet sera au cœur demain de la réunion des chefs d'État de l'Union africaine, réunion qui se tient en Éthiopie. Demain également, confirmation que 3 otages israéliens seront bien libérés par le Hamas et par le djihad islamique. C'est le Hamas qui l'a confirmé il y a quelques minutes et Israël confirme et ajoute de son côté connaître l'identité des otages qui seront donc libérés demain.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est une bombe judiciaire à mèche lente. L'affaire des violences et agressions sexuelles dans l'établissement scolaire catholique Notre-Dame de Bétaram. C'est tout près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. La première plainte dans cette affaire date de 1996, mais elle éclate au grand jour aujourd'hui. Après l'ouverture d'une enquête il y a un an par le parquet de Pau, c'est désormais l'attitude du maire de la ville et actuel Premier ministre, François Bayrou, qui interroge. Bonjour Alain Esquer.
Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes le porte-parole des victimes. Vous avez eu François Bayrou hier en ligne. On va en parler ensemble dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on donne la parole à Delphine Evenou. Delphine, vous avez pu ce matin vous entretenir avec le procureur de Pau. Plus d'une centaine de plaintes ont été déposées dans cette affaire. Il vous dit que les moyens sont suffisants.
Alors, évidemment, pour le quotidien, le parquet est preneur de plus de moyens. Mais pour cette affaire, on est paré organisé en interne, dit le procureur de la République de Pau. Une procureure adjointe est spécialement chargée du dossier Betaram, elle le connaît sur le bout des doigts. Un attaché de justice l'appuie sur le côté organisationnel. Et de l'organisation, il en faut 114 lettres plaintes au dernier décompte. Deux sont encore arrivées ce matin au parquet. Et 72 plaintes officielles, car certains se signalent comme victimes sans forcément poursuivre leur démarche judiciaire. Les enquêteurs de la section de recherche de Pau ont entendu une centaine de personnes. Il faudra aussi auditionner, c'est la consigne dans toute affaire de violence sexuelle, les mises en cause. On est pour l'instant depuis un an en enquête préliminaire, mais dans sa phase conclusive, nous dit le procureur. Actuellement, ce sont les prescriptions des différents faits qui sont en cours d'analyse et c'est de cela que dépend la suite. Si certains faits ne sont pas prescrits, un juge d'instruction sera saisi. Nouvelle phase d'enquête, l'information judiciaire. Si tout est prescrit, alors le parquet devra classer sans suite. Un classement qui sera longuement motivé et expliqué à chaque victime, promet le parquet.
Merci Delphine Evenou. Alain Esquer, vous êtes en ligne avec nous. François Bayrou est mis en cause par les oppositions de gauche pour ne pas avoir réagi depuis près de 30 ans à ces accusations. Que lui avez-vous dit hier lorsque vous avez pu vous entretenir avec lui ?
Bon, d'abord, je tiens à souligner que c'est le jeu démocratique que l'opposition pose des questions au gouvernement. On est sur un schéma classique et notre démocratie à ce niveau fonctionne plutôt bien. François Bayrou, effectivement, m'a appelé mercredi avant les questions à l'Assemblée nationale, les questions d'actualité, pour un premier contact. Moi, j'ai 53 ans, je n'ai jamais rencontré François Bayrou, je ne lui ai jamais parlé. Et effectivement, il m'a déjà remercié de faire cette action. Il m'a dit que j'étais courageux. Donc, ensuite, nous avons abordé les questions plus compliqué, à savoir sa position qu'il avait eu la veille à l'Assemblée nationale.
Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle concernant cet établissement scolaire. Voilà ce qu'a dit François Bayrou à l'Assemblée.
Alors, moi, je ne suis pas là pour faire la défense du Premier ministre, mais ce que j'ai bien compris, c'est qu'il est sincère sur le côté qu'il ne savait pas les violences sexuelles qui se déroulaient à Betaram. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que personne ne le savait. Moi-même, en octobre 2023, quand je crée ce groupe Facebook pour les victimes de Betaram, et notamment c'est pour constituer un recueil des témoignages sur les violences physiques et non sexuelles. Et là, qu'est-ce que je découvre ? L'horreur, l'ignominie des victimes en pleurs de tout âge qui viennent me voir et qui me racontent le passé douloureux. Et donc, j'ai décidé d'instruire, entre guillemets, ce dossier en me disant que je vais faire un dossier pénal. D'ailleurs,
sur le volet violence physique, est-ce que vous pensez que là encore, François Bayrou, qui a eu ses enfants scolarisés sur place, dont l'épouse a travaillé sur place, qu'il ignorait complètement ces violences ?
Attention, elle ne travaillait pas sur place, elle enseignait le catéchisme. Alors, je ne sais pas si elle était rémunérée pour ça, mais j'en doute. Ça, c'est le premier point. Les trois autres enfants, Calixte, Hélène et André, qui, grosso modo, entre les années 90 et 2000, vont donc se succéder. En fait, est-ce qu'ils ont vu des violences physiques ? C'est incontestable. Est-ce qu'ils en ont ensuite parlé à la table familiale? Ben moi, je ne suis pas dans l'intimité de la famille. Ce que je sais, par contre, c'est qu'encore aujourd'hui, j'ai des anciens élèves de Betaram, plutôt notables, qui viennent me voir en catimini parce qu'ils ont honte d'en parler, même à la maison, avec leurs parents plutôt âgés. Vous savez, il y a certains parents qui ne veulent strictement rien entendre. Tu veux ma mort quand on évoque le sujet.
Toujours aujourd'hui.
Mais toujours aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit la libération de la parole. Bon, tout le monde savait. Bah, si tout le monde savait, pourquoi tout le monde n'a pas parlé? En fait, c'est ridicule de dire ça. Parce que derrière, pourquoi les élus ne se sont pas manifestés, etc. Vous savez, avec des si, on pourrait faire des choses extraordinaires. Moi, ce qui m'importe, c'est aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai rappelé à François Bayrou, c'est qu'il a aujourd'hui la responsabilité d'être Premier ministre de la France. Et à ce sujet, moi, je lui ai fait quelques propositions, notamment des moyens supplémentaires au parquet de Pau, malgré que le procureur ils disent qu'il a tout
vous
ce qu'il
faut. Vous pensez qu'il faut des moyens supplémentaires? On n'a plus de temps, Alain Esquer, mais on a compris votre message.
Mais également des violences sexuelles, d'en faire une cause nationale. Je rappelle, il y a 5 millions de personnes qui sont abusées en France pendant leur minorité.
Merci Alain Esquer, merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous dans ce 13-14 et pour cette réaction. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des victimes dans cette affaire qui concerne l'établissement scolaire Notre-Dame de Bétarame, mais l'enquête est en cours, nous a rappelé Delphine Evenou il y a une seconde. C'est dans ce contexte que la conférence des évêques de France a annoncé ce matin la publication d'une série de vidéos, car les évêques se sont rendus compte avec le dernier rapport de la CIAZ sur les violences sexuelles dans l'Église que les actes religieux étaient régulièrement détournés. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Vous avez suivi cette présentation ce matin. Les évêques parlent même de manipulation des textes.
Oui, avec cette série de vidéos disponibles donc sur YouTube. 10 heures de programme pour revenir à l'essentiel des évangiles, explique l'Église. La Bible expliquée simplement également pour prévenir toute instrumentalisation.
Le meilleur remède au risque d'instrumentalisation des Écritures est comment les prévenir.
Avec ce constat de l'Église, la méconnaissance des évangiles rend possible toute forme de manipulation en sortant de leur contexte des phrases des évangiles, explique Sylvaine Lacoux, docteur en théologie au Collège des Bernardins.
On voit bien qu'il y a des figures qui vont se servir de textes, hein, qui vont dire « le Seigneur m'a dit à travers sa parole, c'est pour toi ». Et à travers ça, on peut manipuler une personne. On peut conduire, sur un chemin où elle ne veut pas aller, une personne. Surtout quand c'est une autorité.
Ces agressions sexuelles ont donc été possibles par une instrumentalisation, un dévoiement des textes pour manipuler ces victimes, explique Jean-Luc Garin, évêque de Saint-Claude.
Et moi, j'ai entendu des victimes me dire, j'ai dans le cadre du sacrement de réconciliation, j'ai été abusé, et le prêtre dit, cite l'Écriture pour justifier son acte criminel en disant, en faisant référence à, ça sera le secret du roi.
Revenir à l'essence des évangiles avec ces 10 heures de vidéos sur YouTube est donc indispensable, conclut la conférence des évêques de France.
Merci Laurent Kramer, en direct avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Le procès du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, ce procès se poursuit devant le tribunal correctionnel de Paris. Et vous le savez, dans ce 13-14, nous éclairons régulièrement un aspect de ce procès. Alors il y a plusieurs volets dans cette affaire, et celui qui concerne l'ancien chef de l'État est en train de s'achever dans quelques jours. Nicolas Sarkozy ne sera donc plus tenu d'être à l'audience. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
C'est vous qui suivez ce procès pour Inter. On s'attendait, Charlotte, à un Nicolas Sarkozy mordant, tonitruant. Est-ce l'image qu'il a donnée?
Oui, il est très combatif depuis les tout premiers jours du procès et son long propos liminaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, véritable plaidoyer pour son innocence. Il a aussi été le prévenu le plus interrogé au cours de cette première séquence, passant souvent plusieurs heures à la barre. Il compte d'ailleurs le temps qu'il passe à répondre, plus de 20 heures selon lui. Je dois admettre que je n'ai pas fait les comptes moi-même. On l'a aussi vu nerveux, tic au visage, jambes qui tressautent lorsque, assis sur sa chaise de prévenu, il écoutait les autres mis en cause s'expliquer, prenant des notes sur un grand carnet, échangeant quelques mots avec ses avocats derrière lui et réclamant parfois la parole, même s'il le fait nettement moins ces derniers temps, sans doute un peu échaudé par les refus de la présidente.
Sur le fond, est-ce que vous avez eu le sentiment que ces arguments portaient?
Alors c'est évidemment toute la question, et bien malin, il faut le dire, celui qui sait lire dans la tête des trois juges. Alors ce qui est sûr, c'est que tout excellent qu'il soit sur le plan rhétorique, un prétoire de correctionnel n'est pas une arène politique, et la succession des journées d'interrogatoire l'a sans doute plus desservi qu'autre chose, parce que tandis que Nicolas Sarkozy devient de plus en plus répétitif sur ses arguments de défense, pas de traces d'argent libyen dans sa campagne, le seul accord passé avec Kadhafi concerne la libération des infirmières bulgares, unique justification selon lui de la visite visite du dictateur à Paris. Tandis que les mêmes mots donc reviennent dans sa bouche, les éléments d'accusation, eux, s'ajoutent les uns aux autres et se renforcent donc. Et puis, il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy est jugé, entre autres, pour association de malfaiteurs, une infraction qui le rend en quelque sorte comptable des actions de ses coprévenus, dès lors qu'elles sont en lien avec lui. Et le premier interrogatoire d'Éric Woerth hier, mais également les explications parfois franchement rocambolesques de Claude Guéant, Brice Hortefeux, Thierry Gobert, n'ont très probablement pas servi la défense de l'ancien président.
Merci Charlotte Piré, on vous retrouvera régulièrement tout au long des prochaines semaines, puisque ce procès se poursuit jusqu'au début du mois d'avril. Que faire du CO2 que les activités humaines rejettent dans l'atmosphère et qui provoque le réchauffement climatique? La piste principale, c'est bien sûr de réduire nos émissions. Mais de plus en plus de projets s'intéressent au captage du CO2 qu'il faut ensuite stocker. Et ce sera peut-être le cas demain dans notre pays. On vous retrouve Sandy Dauphin. La France dévoile aujourd'hui une première carte des lieux de stockage souterrain potentiel pour ce CO2.
Oui, il y a du potentiel en Aquitaine, mais aussi sous la région parisienne et dans le sud-est de la France. D'après cet inventaire réclamé par l'Europe, il y a aussi des sites possibles en mer au large de l'Aquitaine et dans le golfe du Lion. De quoi stocker de manière étanche plus d'un milliard de tonnes de CO2, soit dans des poches géologiques naturelles, mais surtout dans d'anciens puits d'hydrocarbures abandonnés.
Donc, ces projets sont déjà sur les rails, Sandy ?
Pas tout à fait, non. Le ministre de l'Industrie ne cache pas son intérêt. La France développe des partenariats pour stocker du CO2 sous la mer du Nord. Mais sur le sol français, un seul projet d'envergure a été expérimenté. C'était en 2008 à Lac, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur un ancien gisement de gaz. Mais il a été abandonné. Abandonné en partie à cause de l'opposition locale. C'est d'ailleurs l'un des freins au développement du stockage souterrain du CO2. Les riverains vont-ils accepter d'avoir du CO2 stocké sous leurs pieds? Pour les associations environnementales, c'est une fausse bonne solution. Et puis l'autre frein est économique, cette technologie reste très coûteuse.
Merci Sandy Dauphin. Le football français va-t-il droit vers la banqueroute? Il pourrait y avoir des défaillances de clubs professionnels d'ici la fin de saison. Voilà ce qu'a dit hier le président de la Fédération française de football. En cause, le diffuseur des matchs de Ligue 1, la plateforme britannique DAZN, qui refuse de verser l'argent qu'il doit au club et qui dénonce le piratage dont ce diffuseur est l'objet. La Ligue a donc saisi le tribunal de commerce. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Vous êtes au tribunal de commerce qui a dit ce matin qu'il ne rendrait sa décision que le 28 février, ce qui veut dire que l'argent ne va pas arriver tout de suite pour les clubs français.
Ouais, et ça c'est la très mauvaise surprise de la matinée hein, pour l'écosystème du football. Vous savez que l'essence même de la procédure de référé, c'est l'urgence, c'est l'efficacité, mais j'ai 110 pages de conclusion à analyser, a déploré le président du tribunal pour justifier ce délai de 14 jours avant le rendu de l'ordonnance. Je me permets d'oser, d'insister, les clubs attendent l'argent le jour même, à la minute même, a tenté l'un des avocats de la Ligue, mais sans succès. Il n'y aura donc pas de décision et donc pas d'argent avant le 28 février pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Alors comment va procéder la LFP? Va-t-elle par exemple utiliser son fonds de réserve, cette somme d'urgence autour de 100 millions d'euros qui a été mise de côté par la LFP en cas de coup dur? Le directeur général de la Ligue, qui était présent ce matin, n'a pas souhaité faire de commentaires, mais il va falloir répondre au club très rapidement car eux attendaient l'argent au plus tard en début de semaine prochaine.
Emma Sarango en direct avec les moyens techniques de Corentin Bailly. Il avait débuté sa carrière comme greffier au tribunal de Besançon avant de devenir député suppléant et surtout entre-temps la voix de l'OM pour nos confrères de France Bleu puis d'ici Provence. Avi Assouli est mort aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Le grand moment de sa carrière restera évidemment 1993 et le commentaire de la victoire en finale de la Ligue des Champions de l'OM, son OM comme il le rappelait il y a quelques années.
Et c'était Milan contre l'OM, donc c'était la finale. Et ça tenait, on avait l'espoir et ça tenait. Et il y avait ces supporters extraordinaires.
C'est Sabé Dipelé qui se charge de la frappe au deuxième poteau. Et but !
But
de Basile Boli ! But ! 42e but ! But de Basile Boli !
J'ai craqué, quoi ! J'ai craqué et puis après, il fallait tenir. C'est inimaginable.
La voix d'Avi Assouli et nous nous associons à la peine de nos confrères d'ici Provence. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, venez nous raconter Nous avouez vos mensonges. L'humoriste Morgane Cadignan est avec nous. Le mensonge, c'est le thème de son dernier Seul en scène. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton à Chartres, la ville qui met de l'intelligence artificielle partout. Ça fonctionne également à la médiathèque. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Jean-Baptiste René et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jean-Baptiste, vous nous emmenez à Caen.
Oui, à Caen, où les supporters du club de foot, le Stade Malherbe, désespèrent de voir leur équipe s'enfoncer au classement, alors même que l'actionnaire est incertain. Kylian Mbappé.
Est-il meilleur joueur qu'actionnaire ? On verra cela avec vous, Jean-Baptiste, dans quelques minutes. Avec vous, Frédéric, un musicien.
Victor Lemann, compositeur et directeur musical, auquel on doit notamment les morceaux des cérémonies d'ouverture et clôture des JO. Pour cela, il pourrait recevoir ce soir une victoire de la musique. Et avec lui, nous écouterons un titre du groupe Nirvana, titre sur lequel... Il faisait de la batterie quand il était ado.
D'accord.
Ça va bien tabasser, Jérôme.
Préparez-vous, à tout à l'heure.
Améliorez votre expérience d'écoute de France Inter grâce au DAB+.
Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et de données plus complètes sur vos programmes.
Plongez au cœur de la radio en qualité numérique et profitez d'une nouvelle écoute sur la route sans interruption.
France Inter vous accompagne en haute définition grâce à la technologie DAB+.
Plus d'informations sur ensemblepourledabplus.fr.
Vous aimez les histoires bien racontées? Les affaires non élucidées et leurs résonances actuelles. Les personnages ambigus. Les disparitions inexplicables. Les atmosphères troubles dans les brumes du Nord. La guerre froide et ses espions. Ingrid Hasson, le simenon islandais, témoigne des illusions d'ingénues qui ont perdu la vie en croyant la changer. Les lendemains qui chantent, d'Arnaldur Ingrid Hasson, vient de paraître aux éditions Métellier.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée... souvent ensoleillé, sont des mots que j'ai rarement prononcés ces dernières semaines,
bien,
pour tout vous dire.
C'est agréable, hein. Sur une bonne partie du pays, en effet, du soleil. Alors bémol sur la Lorraine, l'Alsace, beaucoup de nuages. Nuages aussi entre le sud des Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, avec quelques averses, de la neige vers 1000 mètres. Et puis de la Bretagne au sud-ouest, là on retrouve notre perturbation, avec en effet beaucoup de nuages, mais des pluies de plus en plus espacées. Température toujours timide au nord jusqu'à Rhône-Alpes, 3 à 8 degrés le plus souvent. C'est doux au sud en revanche, 11 à 18 degrés. Et puis demain ce sera calme, souvent ensoleillé, avec de plus en plus de nuages d'altitude tout de même du nord-ouest au nord de la Seine.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Morgane Cadignan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14, de retrouver le chemin de la maison de la radio de France Inter. C'est pas le même étage.
Ça faisait presque un petit peu trop longtemps.
Depuis l'automne, c'est ça ?
Depuis octobre, exactement.
Ouais, depuis le mois d'octobre, vous qui étiez chroniqueuse pendant... 460
chroniques,
460
quelque chose.
Chroniques dans la bande originale avec Nagui et Leïla Kadour, évidemment, entre 11h et midi et demi. Vous êtes humoriste, donc les auditeurs vous connaissent. Et vous êtes parti pour un deuxième Seul en scène, La nuit je mens, le mensonge, qui nous réunit tous, j'ai envie de dire, même
on l'avoue
pas toujours, vous l'avouez sur scène. Donc normalement, les auditeurs doivent être nombreux à venir avouer leur mensonge. 01 45 24 7000, vous êtes avec nous, vous passez également via l'application France Inter. Morgane Cadignan, comment est né ce spectacle, d'une situation personnelle, d'un mensonge auquel vous avez été confronté, de mensonges que peut-être vous-même avez prononcé,
proféré comme... Non, en vérité, moi je fais vraiment du... Oui, c'est un Seul en scène, mais c'est surtout du stand-up. Et un spectacle de stand-up, il se construit en comédie club, donc petit bout par petit bout qu'on vient tester, roder. Et donc j'ai fait ça pendant un an et demi et j'avais plusieurs sujets que je testais avec des blagues qui marchaient sur l'école, sur l'enfance, sur les relations amoureuses, sur la rencontre, sur ma famille. Et en mettant tous ces petits bouts les uns à côté des autres, je me suis dit, waouh, il y a quand même un dénominateur commun, qui est le mensonge, la malhonnêteté, mais la mienne, vraiment ma propre lâcheté. J'étais vraiment obligée d'écrire tout ça pour confronter ma propre lâcheté à moi, au lieu de dire, oui, c'est toujours les hommes dans les rencontres qui fuient, qui partent, comme moi, on me l'a dit, ma mère, ma grand-mère. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, parce que je reproche des choses à des gens que je fais sans me rendre compte. Et après, j'avais une histoire donc, que je ne peux pas trop raconter, parce qu'elle clôture le spectacle sur une fois où j'ai menti moi-même. et où je me suis retrouvée un peu coincée dans une escalade du mensonge une nuit. Donc c'est un peu devenu une évidence que ça allait être ce fil. Je sais pas si c'est un thème, mais en tout cas ce fil rouge.
Il y a le mensonge, il y a la famille aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre grand-père qui est menteur, qui est conteur,
qui est embellisseur de vérité, qui est bien ce qu'il veut, puisque c'est alors mon grand-père antillais, donc Fulbert, qui est quelqu'un qui ne savait pas être simple, qui devait toujours inventer des histoires et des légendes pour que un peu pour s'opposer à la banalité du quotidien, et finalement pour nous faire rire et pour nous divertir. Donc moi c'est pour ça que je lui en veux pas, mais c'est vrai qu'on a j'ai découvert à sa mort, et puis même quand il disait des choses en grandissant, j'étais là mais je peux pas acheter ça, c'est beaucoup trop gros. Donc je raconte sur scène qu'il mettait des fourmis dans mon biberon quand il nourrissait enfant dans le lait, parce qu'il y a une croyance c'est ce qu'ils disent, une croyance guadeloupéenne qui dit qu'après les enfants développent une mémoire extraordinaire, et ma grand-mère me raconte ça, ma mère me raconte ça, et à un moment je me dis mais personne dans cette famille, aucun adulte n'a sourcé cette information.
L'impact de la fourmi sur les mémoires.
J'ai dû attendre. Mais personne. Je vous le dis, j'ai googlisé l'affaire et absolument rien. Et je me dis, mais il a dû raconter ça parce qu'en premier lieu, ça le faisait rire lui-même. Et c'est assez important de s'autosuffire dans le divertissement. Donc je crois que c'est un petit peu ce qu'il faisait. Et il a quand même réussi parce que je parle de lui.
Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous lui dites, mais les fourmis, c'est des fourmis pour la mémoire.
Il m'a dit, bah ouais, mais t'as vu comment tu t'en souviens.
Ça,
voilà, qu'est-ce que j'avais de chance. Et c'est ce que je dis sur scène, quand on est éduqué par des gens comme ça, j'avais peu d'autres solutions que de faire des blagues derrière.
Mais vous vous souveniez, quand vous étiez petite avec lui, que vous demandiez si c'était du lard ou du cochon en permanence, que vous vous interrogiez là-dessus?
Alors petite, non, je le regardais, c'est un peu comme dans Big Fish de Tim Burton. Moi, j'étais comme un enfant de 7 ans qui achète ce qu'on lui vend, donc j'étais émerveillée en me disant mais j'ai la famille la plus farfelue et la plus fantasque du monde. Et c'est ça aussi qu'on embellit un peu auprès des enfants pour cacher la banalité parfois affligeante de ce que c'est qu'une famille avec ses problèmes, avec ses secrets et avec ses mensonges, parce qu'on revient dessus.
Qu'est-ce qui relève du mensonge, de la fable, de la légende, de l'exagération? Vous interrogez tout cela, vous le dites d'ailleurs au tout début du spectacle, le mensonge est partout autour de nous. On a réalisé pour vous un petit florilège, Morgane Cadignan, qu'on peut peut-être baptiser menteur-menteur.
La parole est au ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac.
Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait.
Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
Je te jure.
Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie.
Paroles, 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 encore des paroles, que tu sais mon mot.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. These allegations are false.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Mais est-ce que vous pouvez dire, monsieur Mitterrand, en me regardant dans les yeux, pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux?
C'est toujours ma seule vérité.
Vous n'avez pas fait de clin d'œil, là, à personne?
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai?
Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux.
C'est pourtant vrai qu'il était faux. Tu mens! Il ment!
Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais...
Tais-toi!
Si tu savais comme j'ai envie...
Mélange de vraies déclarations, hein, Jérôme Cahuzac, Bill Clinton notamment, et de fiction. Vous avez un préféré dans tout ce qu'on vient d'entendre?
Honnêtement, là, je préfère la fiction, quoi. Parce que, après, Cahuzac, Clinton, on peut, et puis même avec ce qu'on voit en ce moment, on peut au moins leur reconnaître un aplomb assez fou, quoi. C'est-à-dire que parfois, plus c'est gros, la seule solution, c'est de nier, quoi.
Vous êtes une bonne menteuse, Morgane Cadignan?
Je crois pas.
Non, vous avez cet aplomb-là ou pas?
Non, je crois pas. En plus, maintenant, j'ai fait un spectacle dessus, donc ça commence à se savoir. Parce que je liste. Alors, moi, c'est pas forcément, je parle pas forcément d'énormes mensonges, mais c'est aussi les petits mensonges de complaisance, les petites omissions confortables pour pas vexer les autres, et puis les petits mensonges qu'on se fait à soi-même. J'ai été une très bonne menteuse pour moi-même.
C'est-à-dire
longtemps, sur plein de choses. Je pense que quand entre la vingtaine et la trentaine, il y a plein de choses qu'on n'est pas prêt à affronter et qu'on fait après quand on fait un peu sa petite thérapie personnelle et qu'on prend de l'âge. Je me suis rendu compte, mais tiens, je me suis raconté que j'étais tel genre de personne, que j'ai découvert il y a pas longtemps que j'étais pas très fêtarde. C'est un truc que je me racontais depuis 12 ans.
Ah, oui.
La nuit, etc. Paris. Et en fait, non, je suis casanière et je sais, personne ne m'a demandé de faire croire ça, mais c'est aussi l'image qu'on se colle de nous-mêmes à nous-mêmes, qui est un petit mensonge pour nous.
Dans l'extrait qu'on vient de monter, dans cette composition, dans ce florilège, ouais, il y avait uniquement des hommes. On aurait pu trouver des femmes aussi, mais peut-être ce n'est pas le hasard. Est-ce que les hommes, au fond, mentent plus que les femmes? En tout cas, les hommes ramassent. Alors, votre maman ramasse aussi dans le spectacle.
Ouais, elle ramasse gentiment.
Ah oui,
elle ramasse tendrement.
Elle l'a vu?
Oui, elle l'a vu. Elle l'a vu deux fois. Non, elle est contente.
Ça va, vous êtes toujours en
bon terme. Mais elle est contente que je parle d'elle. Oui.
Mais alors, les hommes ramassent beaucoup.
Je sais pas si les hommes ramassent et je sais pas si les hommes manquent plus. En vérité, c'est peut-être que dans leur éducation, ils ont été moins conditionnés à s'excuser et à minimiser leurs réactions. Donc, je sais pas s'ils manquent plus ou c'est juste qu'ils ont plus d'aplomb parce qu'on leur a permis ça dans leur construction d'hommes par rapport à des femmes qui sont toujours mis un peu en dessous, qui n'ont pas trop dit, qui n'osaient pas trop. Donc, peut-être que les hommes osent plus, tout simplement, et que dans cette, façon d'oser, il y a plein de petits mensonges qui passent. Je ne sais pas si les hommes... Vous trouvez que les hommes ramassent dans le spectacle?
Je ne sais pas. Je trouve, ouais.
Je sais, gentiment.
Gentiment.
Parce que j'essaye toujours quand même de déconstruire en disant je ne fustige pas les hommes, je me mets face, moi, à ma propre lâcheté. Après, peut-être que je suis très masculine dans ma manière d'être lâche et de mentir. Mais non, je sais pas. J'ai pas l'impression que les hommes ramassent. Après, je suis une femme hétérosexuelle, donc je parle de mes expériences et il faut bien que je dise la vérité.
Et la vérité, c'est aussi que les hommes ont le mensonge et se mentent à eux-mêmes vis-à-vis de leur relation avec les femmes. Ça, c'est, je trouve, un tournant dans le spectacle. Et vous êtes assez sérieuse à ce moment-là quand vous expliquez que si on devait, à chaque fois que les hommes ont une remarque misogyne, pour ne pas dire plus, se lever, casser l'ambiance, et quand ils vous demandent « c'est problématique ce que je viens de dire », arrêter le repas ou arrêter la réunion et dire « oui, c'est problématique ». Et c'est un vrai problème. Et donc je me lève et je m'en vais après t'avoir dit tes quatre vérités, pour revenir à la vérité et au mensonge. Si on faisait ça, toutes les femmes
en même
ensemble.
Temps, les femmes seraient en mouvement permanent.
Quel bordel!
Mais en fait, c'est ce que je disais juste avant, ça rejoint tout à fait. C'est que je sais pas si on ment, mais nous, on est plus habitués à minimiser nos réactions, à pas être honnête dans nos réactions, à dire. Et parfois, on n'a pas envie d'aller éduquer, on n'a pas envie d'aller s'abîmer dans le débat avec un pote, un oncle, un père, un cousin, un homme qui dit quelque chose. Et oui, la réaction honnête, ça serait celle d'Adèle Haenel, ça serait celle qu'on devrait toutes faire, c'est se lever et se casser, dire écoute, là, t'es vraiment en train de dire un truc qui est pas possible, j'ai pas envie de t'expliquer pourquoi c'est pas possible parce que tu devrais le savoir, et j'ai pas envie de rester assise à cette table et de faire semblant que ça ne me dérange pas. Donc, je vais me lever et je vais aller ailleurs. Mais ça ferait beaucoup de trafic dans les bars, dans les restos, dans les appartements. Donc,
c'est du vécu, c'est une situation que vous avez déjà vécue.
Ah, c'est une situation que j'ai déjà vécue et que je pense honnêtement 100% des femmes ont vécu. Alors on a chacune notre réaction, soit on baisse les yeux, soit on fait une blague parce qu'on le prend à la rigolade, soit on s'en va, soit on s'embrouille. Mais on a toutes dit au moins une fois, et ça me choque pas, viens, on parle d'autre chose parce que flemme.
Et ça vous est aussi arrivé de vous lever et de le dire?
Ouais, souvent.
On peut dire aussi que les hommes ont le droit aussi de se lever.
Exactement.
Et de le dire.
Bien sûr. Et on a le droit de débattre, et on a le droit de s'engueuler très fort.
Message de Benjamin. Je vois le mensonge comme de l'huile dans les rouages de la vie qui permet de fluidifier les liens sociaux. Et j'imagine l'enfer que serait une honnêteté sans faille. Est-ce que vous êtes interrogée là-dessus, Morgane Cadignan? La société serait-elle pire si le mensonge était interdit ou impossible?
Je pense, parce que dans le mensonge, il n'y a pas que le mensonge vil et vicié pour abîmer, pour faire du mal et pour cacher. Il y a aussi celui pour prendre soin des gens, pour vivre le petit masque social qu'on est obligé de mettre pour vivre les uns avec les autres. Et c'est marrant parce qu'il y a quand même quelque chose autour de l'hypocrisie qui est très, 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 très péjoratif, de faut pas être hypocrite, faut pas dire le contraire de ce qu'on pense, mais l'hypocrisie, c'est quand même peut-être d'une part le dernier rempart à la méchanceté. Parce qu'on peut pas dire à tout le monde ce qu'on pense en permanence.
Donc ça serait une guerre permanente, quoi, en quelque sorte. Caroline est en ligne avec nous. Bonjour, Caroline.
Oui, bonjour.
D'où nous appelez-vous ?
De la Prétoire, en Seine-et-Marne.
Vous venez nous avouer un mensonge, peut-être, Caroline ?
Oui, en fait, en écoutant l'émission, je me suis souvenue qu'il n'y a pas longtemps, j'avais menti. Et quand je me suis dit, qu'est-ce que c'était déjà ce mensonge ? Figurez-vous que je ne m'en suis pas souvenue et que j'ai réalisé que ça m'arrivait de mentir, mais que j'oubliais quand je mentais, si bien que quand j'écoutais une émission sur le mensonge, j'avais toujours l'impression que ça ne me concernait pas, le mensonge, que je ne mentais jamais. Et en fait, si, je mens comme tout le monde. Alors, je pense pas très souvent, après, il y a des niveaux, mais souvent, j'oublie après.
Je mens et puis j'oublie, ça pourrait être un titre de chanson. Merci Caroline. Merci. Pour ce témoignage.
Bah oui, c'est exactement, on est Caroline est pile dans le thème du spectacle, c'est que ça nous concerne tous et il y en a des tellement petits, des tellement quotidiens qu'on s'en rend pas compte et en fait c'est pas grave. Moi je suis pas là pour poser un constat de philosophique de attention, il y a pas de jugement, c'est pas grave, on le fait tous, c'est marrant.
J'allais presque oublier de reparler du titre du spectacle. Ouais. Vous nous le redonnez ?
La nuit je mens.
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains.
La voix d'Alain Bachung, c'est un hommage à votre père ?
C'est avant tout un hommage à Alain Bachung, mais c'est vrai qu'on écoutait beaucoup ça à la maison et que je raconte que je mens et que je raconte que je mens la nuit, donc j'avais pas beaucoup d'autre choix que de l'appeler comme ça.
Hommage à la résistance dans les textes d'Alain Bachung, là c'est
beaucoup
mensonge.
Double sens, oui, et moi oui, c'est un peu plus léger.
Le mensonge, évidemment, quand on était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il était évidemment la possibilité de rester en vie. Tout cela, vous le retrouvez dans ce spectacle. La nuit, je mens, c'est donc le titre. C'est tous les mercredis, 19h, à la Comédie de Paris. C'est dans le 9e arrondissement jusqu'au 25 juin. Et tous ceux qui n'habitent pas à Paris sont en train de se dire « Mais moi, comment je fais ?» Et vous serez en tournée partout en France.
Bien sûr, à partir de septembre.
La vie est bien faite. Merci Morgane Cadignan.
Merci à vous.
D'être passé
Merci
par le
beaucoup.
13-14, 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Dernier épisode aujourd'hui à Chartres, cette ville qui met de l'IA dans le quotidien. Par exemple à la médiathèque, renommée la Mediatech, qui organise plusieurs fois par semaine des ateliers donc sur le thème de l'intelligence artificielle. Sujet du jour, comment utiliser ChatGPT pour rédiger une lettre de motivation.
Alors madame, vous venez pour l'atelier ? Tout à fait. D'accord, vous pouvez vous installer, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir commencer. Ok. Vous avez tous normalement ChatGPT ouvert avec la version donc abonnée de la médiathèque. Imaginons que, effectivement, cette offre m'intéresse, mais que j'ai un petit peu le syndrome de la page blanche. Je ne sais pas comment commencer ma lettre de motivation. Donc par rapport à l'offre que tu viens d'analyser, propose-moi une lettre de motivation. Cette première lettre de motivation, elle va être parfaite, c'est un premier jet. Après, on verra qu'on va pouvoir se présenter à l'IA. Et après ce travail de présentation, vous allez demander de modifier votre lettre de motivation en intégrant vos expériences, vos compétences, vos qualités et votre cursus. Vous avez vraiment une conversation avec votre assistant conversationnel qui est ChatGPT. ChatGPT n'est pas un outil magique. Ça ne va pas vous faire une lettre parfaite dès le début. C'est à vous aussi d'analyser ce que vous propose l'IA. Après, je ne vous dis pas que la lettre qui va sortir à la fin, vous allez devoir la recopier telle qu'elle. Vous pouvez vous en inspirer. Vous n'êtes pas obligé de le prendre pour argent comptant. Voilà, ne pas perdre de vue cet esprit critique. D'accord ?
Eh bien, moi,
je peux regarder ce que vous faites ou ça vous embête ? Ouais.
Comme je suis enseignant, je me suis amusé à prendre l'exemple d'une candidature pour un lycée français à l'étranger, en sachant que j'ai aucun atout pour remplir cette candidature, puisqu'il demande une expérience que je n'ai pas. Donc j'essaie de voir comment il peut tourner ses faiblesses en points forts.
Et pourquoi ça vous intéresse, vous, cet atelier, par exemple ?
Je suis vraiment assez sceptique sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un outil très dangereux. Je suis un petit peu marqué par le film 2001, Odyssée de l'espace, où l'intelligence artificielle se retourne contre l'homme, et je pense que c'est philosophiquement un danger. Du coup, j'avais toujours refusé jusqu'à présent d'utiliser l'intelligence artificielle, mais c'est pas en faisant la technique de l'autruche qu'on va pouvoir avoir, on dirait, une attitude intelligente et raisonnée vis-à-vis de cet outil.
Là, le résultat, vous l'avez ou pas ?
Effectivement, j'ai l'impression que pour moi, ce que fait ChatGPT, c'est simplement mettre un langage administratif. Il n'y a pas d'âme.
Est-ce que je peux vous embêter, vous demander ce que vous faites ?
Je cherche une annonce pour m'entraîner, parce que c'est ce que je fais déjà. J'utilise déjà ChatGPT pour faire mes lettres de motivation, parce que j'aime pas la page blanche. Je cherche un emploi. ça aide aussi à trouver les mots quand on les a pas forcément, alors que bah, la motivation elle est là, mais on met tout en vrac, et puis c'est vrai que c'est pas mal pour structurer les idées. Mais là, je me rends compte qu'il me manque un niveau. Par exemple, aux trois points qu'il a donnés, il y en a un que je faisais pas. C'est de donner des détails sur moi, justement. Parce que je trouve qu'effectivement, les lettres, elles sont bien, mais elles sont un peu creuses, même si c'est bien écrit. Après, à la limite, c'est que justement, parfois, c'est trop bien écrit. On dit, ben, en fait, la réalité, c'est que c'est pas ma façon d'écrire à moi. Donc,
Et vous pensez que ça peut se voir, qu'on a utilisé ChatGPT pour rédiger une lettre de motivation?
Certainement, mais moi, je l'assume. Je me suis dit, à la limite, je pourrais même mettre en bas « réalisé avec l'aide de ChatGPT et Gemini », parce qu'en fait, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut savoir dire aussi « j'utilise ces outils-là ». Ça veut dire qu'on est dans l'air du temps, parce que moi, j'ai 44 ans, donc c'est bien aussi dire « bah oui, moi aussi, j'utilise ChatGPT, mais j'espère l'utiliser intelligemment et pas juste le laisser faire mon travail ».
C'était le dernier épisode de notre feuilleton à Chartres, signé Laurélie Carive. Vous le retrouvez sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h49 le vendredi. La France du sport, aujourd'hui avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Jean-Baptiste, vous nous parlez d'un club de foot en détresse, propriété d'un actionnaire très célèbre.
Oui, ça se passe à Caen, dans le championnat de Ligue 2. Mais au rythme où vont les choses, c'est à l'étage inférieur et autant dire à l'anonymat que le club semble promis. Bon dernier, alors qu'il reste 14 matchs à jouer avant la fin de la saison, Caen reste sur une impressionnante série de 8 défaites d'affilée et n'a quasiment plus aucun espoir de se sauver. Alors pourquoi je vous parle de Caen et pas de Martigues l'avant-dernier, dont l'horizon semble tout aussi bouché? Alors parce que le Stade Malherbe n'est pas n'importe quel club sur la carte du foot français. C'est une institution plus que centenaire qui a quand même passé 18 saisons en première division. Mais c'est aussi et surtout parce que depuis cet été, Caen est détenu par un actionnaire très particulier, un joueur français en activité qui enchaîne les buts en ce moment sous le maillot du Real, c'est...
Kylian Mbappé, évidemment, qu'est-il allé faire dans cette galère?
La question serait plutôt, pourquoi cette saison a-t-elle viré au cauchemar alors que tout le monde s'était pris à espérer en voyant arriver le capitaine de l'équipe de France à la tête d'un club qui avait déjà l'habitude de jouer les premiers rôles en Ligue 2? Ouvrons juste une parenthèse. Mbappé et Caen, ce n'est pas une association aussi lunaire qu'on pourrait le croire. Le lien remonte en fait à l'adolescence, quand le joueur avait une quinzaine d'années et qu'il avait été tout près de signer dans le club normand. Un peu plus de 10 ans plus tard, il l'a donc racheté pour 15 millions d'euros, des queues de cerises, pour celui qui le même été a touché une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros en rejoignant le Real. Alors c'est bien sûr à distance que Kylian Mbappé dirige le Stade Malherbe. Il a placé l'un de ses fidèles, Ziad Hamoud, au poste de président, et sa mère, Faïza Lamari, se déplace occasionnellement en Normandie. Mais visiblement, les décisions ne portent pas leurs fruits sur le plan sportif et la patience des supporters n'a déjà plus de limites. Certaines banderoles accrochées sur les grilles du centre d'entraînement s'adressaient directement à la famille du type « Faïza, les bouseux sont dans la merde » ou « Mbappé, le SMC, n'est pas ton jouet ». Ambiance.
Bon, c'est assez clair, c'est le grand désespoir, Caen ?
Oui, la situation est officiellement désespérée alors que Caen joue lundi soir à Annecy un énième match de la dernière chance. Même le récent stage cohésion de 2 jours sur les plages du débarquement semble n'avoir eu aucun effet. Alors dans ce genre de situation, que reste-t-il aux supporters ? L'humour. Le compte X, We Are Malherbe, bien connu dans le monde du foot pour son sens de l'autodérision, s'est lui-même rebaptisé We Are dans la merde. Alors cela rappelle une autre période difficile vécue par le club, fin 2021. À l'époque, les fans avaient repris en plein match « La terre est ronde », une chanson d'Aurel San, la star locale, en détournant bien sûr les paroles. Alors, je ne vais pas vous la chanter,
non.
Mais voilà ce que donnait cette version quelque peu désabusée. « Au fond, je crois que j'aime le Stade Malherbe pour je ne sais quelle raison. Non seulement on fait que de perdre, mais en plus, on perd à la maison. » En cas de relégation en nationale, soit la 3e division du foot français, les supporters continueront-ils de chanter ?
Ce serait presque l'essentiel. Merci Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. De C'est la France à C'est une chanson. C'est un compositeur, on va reparler de sport d'ailleurs, un compositeur qu'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier. Il s'agit de Victor Lemann.
Directeur musical des cérémonies des Jeux Olympiques 2024, Victor Lemann pourrait décrocher ce soir une victoire de la musique dans la catégorie du concert de l'année, et c'est un morceau des Américains de Nirvana qu'il a souhaité que l'on écoute, Breed, qu'il a découvert au début de son adolescence.
J'étais un jeune batteur à l'époque, qui était pas évident ni pour mes parents, ni pour les voisins. C'est-à-dire que je jouais fenêtre ouverte, je faisais un espèce de concert tous les jours après l'école. Et je me souviens mettre ce morceau sur la chaîne IFI et jouer par-dessus de la batterie. Il y a une intro de Caisse Claire qui me rendait dingue et qui me rend encore dingue aujourd'hui. C'est des souvenirs vraiment d'adolescence, quoi. Mais ouais, c'était dur pour les voisins. Dans cette petite ville donc, qui s'appelle Chaville, dans une rue complètement pavillonnaire où il se passe absolument rien. Donc il y avait ce son de batterie qui devait sortir tous les jours vers 17h à peu près. Donc merci les voisins de Chaville quand même.
D'avoir supporté.
D'avoir supporté.
Et de vous avoir finalement aidé à construire votre univers musical.
Ouais, de m'avoir fatalement aidé parce que c'est des moments très très formateurs. Pour la petite histoire, il y a eu un incendie dans cette maison qui était la maison de mon enfance qui a entièrement brûlé quand j'avais peut-être 16 ans, un truc comme ça. Donc toute cette batterie, tous mes instruments, etc. Enfin toute cette maison a entièrement brûlé dans un incendie. C'était assez traumatique quand j'étais ado. Donc c'est vrai que quand j'entends ce morceau et cette énergie, j'aime bien me rappeler de ces moments.
C'est en 1991 qu'est sorti ce titre, Frédéric, sur Nevermind, deuxième album studio de Nirvana.
Un groupe auquel Victor Lemann continue de vouer une immense admiration.
Ils sont trois, donc Kurt Cobain chante guitare, Chris Novoselic qui joue de la basse, et Dave Grohl batterie qui fait des chœurs. Mais c'est comme si c'était un seul chœur qui battait, quoi. C'est un trio. Et ça joue vraiment ensemble. Ça joue très 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 bien. C'est comme si c'était un peu les Beatles de ce type de musique. C'est quand même une forme d'exigence qu'ils avaient. Sous couvert de bordel organisé et de punk même, c'est quand même un très 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 haut niveau de précision. Donc Nirvana, c'était choquant en fait, à plein de niveaux, c'est-à-dire musicalement excellent, c'était parfait. Les textes, la musique, la violence, quand on rencontre ça quand on est adolescent, quand on vit soi-même, comme tous les adolescents du monde entier, des tourbillons internes, forcément c'est explosif en fait.
Le jeune adolescent que vous étiez, il était en colère?
J'étais en colère, c'est un bien grand mot, mais je remettais le système en question, quoi. J'étais plutôt bon élève, etc., mais j'avais envie de faire de la musique, j'avais envie de faire de la musique vite, j'avais pas envie d'attendre trop longtemps. Donc, ouais, une forme de rébellion, hein, quand même. Donc Nirvana, c'était en plein dedans pour moi.
Ça collait bien.
Ça collait très 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 bien.
Quand vous écoutez Nirvana aujourd'hui, est-ce que ça a le même effet que quand vous l'écoutiez à 14 ans ?
J'écoute pas de la même façon, mais j'ai pas moins d'amour. C'est juste mon écoute, elle a évolué et je me vois adolescent, jeune musicien en herbe et maintenant je suis très heureux d'en faire mon métier, d'être compositeur, producteur, directeur musical, etc. C'est marrant d'être passé de faire de la batterie pour tous mes voisins à Chaville, dans une petite maison, à être compositeur pour les Jeux Olympiques. Donc forcément, j'ai un regard un peu attendri sur ça, sur le jeune adolescent que j'étais, bien sûr.
Et ça vous ferait plaisir que votre fils de 3 ans écoute plus tard ce groupe?
Oui, ça me ferait plaisir qu'il écoute ce qu'écoute son père, mais j'ai surtout envie qu'il écoute ce qui le rend heureux. Je ne vais pas le forcer à être musicien, bien sûr, il fera bien ce qu'il voudra. Par contre, je vais tâcher, enfin, ce n'est pas évident, mais de lui communiquer la joie de la musique, même si on n'est pas musicien. Mais la musique, c'est quand même une grande richesse. Et puis la musique est partout, quelle que soit la couche de la société, il y a de la musique. C'est un peu bateau ce que je dis, mais j'aime la musique.
On avait les cheveux un peu plus longs aussi à l'époque, Frédéric Pommier. Breed, Nirvana, c'était donc le choix du compositeur Victor Lemann.
Victor Lemann en lice pour les victoires de la musique qui auront lieu ce soir. Il pourrait être récompensé du trophée du concert de l'année. pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été.
Victoire de la musique, on va suivre ensemble à partir de 21h sur Inter, autour de Laurent Goumard et Aline Afanoukoé pour cette soirée. Le générique de cette semaine du 13-14 à la technique. Merci à Florian Dorimini, Selim Guéribi, Thomas Allard et Clément Berman. La rédaction en chef assurée par Estelle Schmitt, Cécilia Arbona et Sébastien Sabiron, assistés de Rachid Zourdani, Sylvain Lesage et Carline Desrosiers, notre chargée de programme, Claire-Sophie Collet ainsi que Joachim Taïeb. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme?
Mon invité au carré aujourd'hui vendredi, la pneumologue Irène Frachon.
A tout de suite.